Europe Soir.
Pierre de Villeneau.
Bonsoir, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans les débats d'Europe Soir et déjà ne manquez pas tout à l'heure ce rendez-vous à 19h15. Débat exceptionnel sur Dieu, la science et les preuves. Michel-Yves Bolloré, co-auteur du livre qui porte ce titre, face à Luc Ferry. Question sempiternelle de savoir comment l'univers a commencé. Y a-t-il eu un grand architecte? Qu'est-ce qu'il y avait avant? 5 siècles de découvertes scientifiques remises en question ces 100 dernières années. Et ce n'est pas fini, puisqu'à en croire l'astrophysicien Trinh Xuan Tan, d'ici 30 ans, nous aurons des révélations passionnantes sur la cosmologie des origines. Dieu, la science, les preuves, 50 000 exemplaires déjà tirés, numéro 1 des ventes en précommande sur Amazon le week-end dernier, aujourd'hui à la 3e place. C'est un immense succès, on en parle donc dans une heure. Mais d'ici là, place à l'actualité du jour avec les hommages qui ont commencé pour Samuel Paty, ce professeur décapité l'an dernier par un terroriste radicalisé. Demain, sa famille sera reçue par Jean Castex avant de rencontrer Emmanuel Macron à l'Élysée. Dès aujourd'hui, les établissements scolaires ont tous marqué une minute de silence en son hommage. Jean-Michel Blanquer, en déplacement dans un lycée parisien, a affirmé qu'il ne fallait pas reculer sur les valeurs de démocratie et de liberté. Demain, jour de la mort de Samuel Paty, Emmanuel Macron est attendu à Marseille. Il y va d'ailleurs dès ce soir, un mois et demi après avoir présenté son plan pour la ville, un plan d'1,5 milliard destiné à moderniser, rénover une partie des infrastructures de la cité phocéenne, notamment les écoles. Il sera question aussi de la sécurité. Dans ce contexte, on en sait plus sur le profil du suspect soupçonné d'avoir décapité une retraitée à Agde. Il s'agit d'un ancien candidat aux élections municipales. Il s'était présenté sous les couleurs du FN à Aumont, dans le Nord. Selon nos informations, il a été condamné en 2015 à 3 mois de prison avec sursis. Éric Zemmour, lui, en déplacement à Nîmes. Éric Zemmour qui a déjà réagi sur Twitter concernant cette loi allemande autorisant l'appel à la prière des muezzines. Il paraît que c'est une victoire du vivre ensemble. C'est en réalité une victoire pour l'islam. Cologne, la 4e ville d'Allemagne, a basculé, dit Éric Zemmour, alors qu'à Cologne, en effet, les muezzines pourront, dans la limite de 5 minutes par jour et uniquement le vendredi, appeler désormais les fidèles à la prière sans pour autant faire trop de bruit. Voici les sujets d'actualité dont on parle ce soir avec Françoise Laborde. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, ancienne présidente du CSA. Louis Azelter, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Marianne, bonsoir. À Christian Proutot,
bonsoir.
Fondateur du GIGN, et à Xavier Iacovelli. Bonsoir, bonsoir, sénateur LREM des Hauts-de-Seine. A signalé également dans l'actualité, Emmanuel Macron a salué l'ultime héros des Compagnons de la Libération. Hommage ultime de la nation à Hubert Germain, mort mardi à l'âge de 101 ans. Sa vie est une anthologie d'engagement et de courage, a déclaré le chef de l'État aux Invalides. Le député britannique qui s'est fait poignarder à plusieurs reprises au nord-est de Londres est mort. Il a été attaqué alors qu'il tenait une permanence parlementaire dans sa circonscription. Un homme de 25 ans a été arrêté. Fini les tests anti-Covid entièrement remboursés. Il faudra désormais débourser entre 25 et 44 euros pour un dépistage, sauf si vous avez une ordonnance ou que vous êtes vacciné. En Allemagne, les sociodémocrates, les Verts et les libéraux ont trouvé un accord préliminaire pour former un gouvernement. Ils ont commencé à dessiner les contours de leur politique. Pas de hausse d'impôts, le respect des règles d'endettement et une sortie avancée du charbon. Le foot, avec le début ce soir de la 10e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Angers à 21h. Il est 18h sur Europe 1. Merci de nous rejoindre.
Europe Soir Weekend, 18h, 20h.
Pierre de Villeneau.
Et demain, hommage de Jean Castex et d'Emmanuel Macron à Samuel Paty, ce prof décapité sauvagement par un jeune russe d'origine tchétchène il y a tout juste un an, Abdoulak Anzorov. Hommage dès aujourd'hui, avec notamment ce mot de Jean-Michel Blanquer qui s'est rendu dans un lycée parisien ce matin.
Nous baptisons des salles Samuel Paty, nous baptiserons des établissements Samuel Paty, des écoles, et ainsi nous montrons que la mémoire de Samuel Paty en aucun cas ne sera oubliée. Elle est inscrite dans le marbre, mais elle est encore plus inscrite dans nos esprits.
Alors c'est vrai, hein, on avait dit il y aura des lycées qui s'appelleront Samuel Paty, il y aura des hommages, il y aura des plaques commémoratives. Je crois qu'à ce jour, il n'y en a qu'un hein, de lycée qui porte en effet le nom de Samuel Paty. Vous trouvez ça normal?
Non, mais
enfin...
Cette affaire est proprement désolante et scandaleuse. On a le sentiment d'un hommage en catimini, avec beaucoup de précautions, il y aura des salles. Alors, il paraît que les salles, en plus, seront dans les rectorats, c'est-à-dire dans des endroits où pratiquement les élèves ne vont jamais. Il y aura des lycées, mais on attend combien de temps pour décider qu'un lycée porte le nom de Samuel Paty ? Et j'écoutais tout à l'heure François Pupponi qui disait un truc très juste. Il faisait remarquer que dans toutes les préfectures de France, il y a une plaque à la mémoire du préfet Erignac. Et que cette plaque existe dans toutes les préfectures de France. Et on se demande pourquoi il n'y aurait pas, en effet, dans tous les établissements scolaires français, en tout cas les lycées ou les collèges, une plaque à la mémoire de Samuel Paty. Moi, je trouve que ce qui est révélateur dans cette espèce de frilosité, c'est qu'au fond, l'éducation nationale reste dans le déni, reste dans le pas de vague, reste dans le... On veut pas d'ennui. Et quand on écoute les témoignages des professeurs actuels, je pense notamment à Didier Lemaire, qui est professeur de philosophie et qui est lui aussi menacé pour avoir dénoncé ce qui se passait dans son lycée à Trappes, on voit bien qu'il y a rien n'a été fait. Et c'est ça qui est désolant.
La frilosité désolante, dit Françoise Laborde. Xavier Coeli.
Alors, frilosité de l'éducation nationale et des Français en général sur cette question, effectivement, des hommages aux victimes du terrorisme islamiste. Je pense effectivement qu'il y a nécessité d'aller plus loin, de faire beaucoup plus, de réaffirmer aussi les valeurs de la laïcité. Et je pense qu'elles sont un peu dévoyées aujourd'hui et qu'on a besoin de le remettre ces valeurs dans l'école.
Mais ça, la laïcité, on a beau expliquer, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne
pas. Mais donc, ça ne fonctionne pas parce que je pense qu'on explique mal. Oui, et c'est ça le problème.
Pardon, mais ce n'est pas moi qui suis aux affaires.
Oui, enfin, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas non plus enseignant et
Blanquer
n'est pas
enseignant. Vous êtes dans la majorité.
Donc je pense qu'il y a une nécessité aussi que les enseignants reprennent ce combat des hussards de la République aussi pour mettre en avant la laïcité, pour expliquer aussi aux élèves ce qu'est la laïcité à la française, cette spécificité française. Et j'écoutais je crois que c'était sur CNews un enseignant qui disait que malgré tout il n'arrivait pas à faire comprendre effectivement à des jeunes ce qu'était la laïcité. Et donc ce qui prouve bien que tout le monde n'a pas la même vision. D'ailleurs, quand on est sur un plateau télé ou un plateau radio, on n'a déjà pas la même vision de la laïcité. Et donc, ce qui prouve bien qu'il faut peut-être réaffirmer, relire la loi.
Alors, pour vous, c'est quoi la laïcité, puisqu'on tient
Moi, je pense que la laïcité, c'est justement le respect des religions. C'est l'État ne reconnaît pas les religions, mais permet l'exercice des religions pour tous. Donc, il faut effectivement réaffirmer ça, réaffirmer que l'école est un sanctuaire où l'exercice de la religion ne doit pas rentrer dans le cadre de l'école et que la liberté d'expression.
Mais la laïcité, c'est pas le respect des religions. Alors on va diverger là-dessus. Franchement, la laïcité, c'est de dire qu'à un moment donné, la religion est de la sphère privée. Ça relève en effet de la liberté de conscience de chacun. Mais il n'y a pas à savoir si on doit respecter une religion. Alors, on peut avoir une religion ou ne pas en avoir. On peut avoir une religion ou ne pas en avoir. La religion en tant que telle ne représente rien pour la République.
C'est pour ça que je prouve bien qu'on n'a pas tous la même vision.
Louis Alter.
En tout cas, pas la même interprétation.
C'est vrai qu'il y a une sorte de malaise dans cet anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. On sent qu'il y a une sorte de malaise dans l'éducation nationale. Il y a un non-dit, il y a quelque chose qu'on sent qu'il n'y a pas une cohésion.
Stagnant,
ouais, c'est ça, et de latent et d'assez profond. Et on comprend assez bien en lisant. Un sondage qu'on a fait à Marianne en fait cette semaine, on a interrogé en fait les 18-30 ans dans une enquête IFOP sur leur regard justement sur la laïcité, mais aussi leur regard sur l'assassinat de Samuel Paty lui-même, le drame, l'acte terroriste en lui-même. Et on trouve quand même chez les 18-30 ans 19% qui se disent indifférents à l'assassinat de Samuel Paty. Le taux monte à 44% chez les jeunes musulmans parce qu'il y a une stratification.
C'est-à-dire
par religion.
Un cinquième de la population qui disent ça ne fait ni chaud ni froid.
Oui, exactement. Et un quart de ces 18-30 ans ne condamne pas totalement l'assassinat de Samuel Paty. Donc, pour différentes raisons, soit qu'il
le justifie.
Parfois, certains d'entre eux partagent, une petite minorité, mais certains partagent, disent partager certaines des motivations du terroriste qui a tué Samuel Paty. Et en fait, à la lecture de sondage, on a posé d'autres questions et c'est plus détaillé dans Marianne, mais on voit quand même que dans la jeunesse, il y a un trouble sur ces questions-là. Déjà, il y a une conception de la laïcité qui n'est pas claire du tout, ça c'est évident, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la jeunesse, mais pas seulement d'ailleurs dans la jeunesse musulmane, de gens qui de bonne foi, ne savent pas ce qu'est la laïcité. Soit qu'on l'aurait mal expliqué, soit qu'ils soient influencés, c'est plutôt mon hypothèse, par des idéologies souvent étrangères venues du monde anglo-saxon notamment, qui vont complètement à l'encontre de notre modèle laïque français, au nom de l'absence de droit à l'offense, au nom de l'idéologie qui veut que à partir du moment où l'autre a une religion, et ben vous devez vous respecter, et surtout vous ne devez pas vous exprimer sur ce qu'il est, sur cette religion, sur ses croyances, au risque de l'offenser. Et voilà, on voit que le débat public est maintenant animé par ça, mais on le retrouve, on retrouve cette fracture dans la jeune génération, c'est objectivé par ce sondage, et c'est à mon avis ce qui explique que des profs se sentent autant en difficulté quand il s'agit d'expliquer ce qu'est le droit de caricature, ce qu'est le droit de critiquer une religion,
comme les profs se
ce qu'est l'esprit critique, et ils s'auto-censurent, et, voilà. et on les comprend.
En difficulté,
moi, j'en comprends beaucoup.
Ils préfèrent ne pas trop avancer, et de la même façon pour les directeurs d'établissement.
Quand on voit le soutien de la hiérarchie, parfois, on comprend qu'ils s'auto-censurent.
Christian Proto.
Non, mais je pense que comme on parle de l'exception française, la laïcité, il n'y a que chez nous que ça existe. Mmh. Parce que tous les autres pays, en particulier, on évoquait tout à l'heure, vous évoquiez l'offense, mais le blasphème existe dans le code de pratiquement tous les pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, on n'a pas le droit de blasphémer. Donc, c'est bien évidemment, pour nous, c'est quelque chose qui est inscrit, on ne peut pas, on peut blasphémer, on peut...
Le blasphème n'existe pas.
Oui, c'est ce que je voulais dire. On peut blasphémer chez nous, mais c'est vraiment également une exception. Ce qui fait que pour les jeunes qui lisent, qui voient beaucoup de séries, qui voient beaucoup de choses, le fait d'offenser quelqu'un par rapport à sa religion peut avoir un impact qu'on devrait normalement ne plus avoir, cet impact. On ne devrait plus l'avoir. Mais il existe toujours, et à mon avis, il existe parce que personne, à un moment, leur a dit qu'on avait le droit de penser ce que l'on veut pour sa religion, ça c'est certain, mais qu'en plus, on pouvait également dire ce que l'on pense sur la religion de l'autre, sans tout de suite être potentiellement agressé ou être un agresseur. C'est simplement le droit de penser quelque chose de différent. Et ça, je crois que c'est pas si facile que ça à faire passer. Et si les gens qui devraient le faire passer, ceux qui sont les médiateurs, en particulier à l'école, n'ont pas d'instruction, j'ai entendu récemment, je dis que c'est récemment, mais malheureusement ça a un an, juste ça, il y a un an, on disait, après l'assassinat de Samuel Paty, qu'il fallait apprendre aux enseignants la laïcité. Alors, c'était Blanquer, je crois, qui en parlait.
Oui.
Je me dis, mais c'est fou, si... Aux enseignants, il faut leur apprendre un des principes fondamentaux de la République, c'est que dans leur formation, il a manqué quelque chose. Ça me paraît évident. Mais être obligé de le rappeler, ça me paraît quand même, pour moi, vu mon âge, pardon,
très étonnant,
mes heures de
vol, le moins.
Pour le moins étonnant.
Françoise Laborde.
Mais les pouvoirs publics et le gouvernement sont aussi très coupables d'avoir été ambigus sur ces questions. Rappelez-vous les positions quand même du mal nommé Observatoire de la laïcité, à la tête duquel M. Bianco et M. Cadenne présentaient une laïcité qui était une sorte de coexistence des religions et qui s'appuyait sur des associations, comme justement l'association Coexister, qui sont des militants religieux et qui en effet considèrent que la laïcité, c'est je respecte toutes les religions et c'est la coexistence de tous les autres.
Le gouvernement actuel l'a supprimé.
Oui, mais enfin, il a quand même fallu se battre beaucoup, dénoncer beaucoup et se donner beaucoup de mal pour dire que ça n'allait pas, franchement.
Tout cela prouve quand même.
Et pendant très longtemps, on est resté sur cette ambiguïté, sur le fait qu'on attend toujours le grand discours de Macron sur la laïcité, d'ailleurs, qu'il devait prononcer, peut-être qu'on l'aura avant la fin du quinquennat, on ne sait pas. Mais sur cette question, honnêtement, les pouvoirs publics ont été d'une grande lâcheté.
Tout cela prouve qu'on essaie à chaque fois de trouver les bons outils et qu'on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, c'est très révélateur ce que vous dites, Françoise Laborde, sur le discours d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il le réserve, j'allais dire, comme la réforme des retraites, pour après 2022
et celle de la justice.
Oui, Louis Osalter.
Je pense que non, en fait, les projets d'Emmanuel Macron considèrent qu'il a explicité sa vision de la laïcité, qu'il n'a donc pas besoin de faire ce grand discours.
Puis il avait un chantre pour ça qui était Marlène Schiappa quand même pendant son dernier quinquennat.
Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé avec l'Observatoire de la laïcité, c'est que ça a quand même été remplacé au bout d'un certain temps, il faut bien le dire, par un bureau de la laïcité en fait maintenant. Donc c'est-à-dire que ce n'est plus un observatoire, c'est une administration avec des gens qui, normalement, sont censés dispenser des formations, notamment dans la fonction publique. Donc on pense à l'éducation nationale, on pense aussi au sport, parce que le sport est très concerné, les fédérations sportives sont très concernées par les phénomènes de radicalisation islamiste. Oui. Donc normalement, on n'est pas censé passer d'une observation qui, effectivement, n'était pas toujours raccord avec les principes de la laïcité telle que, normalement, elle est inscrite dans les textes de la République. On devrait passer d'une observation à l'action. Mais je pense, moi, que malheureusement, il suffit pas de rabâcher la laïcité tel un code de la route dans les écoles ou auprès des fonctionnaires pour que ça rentre. Je pense que la question est beaucoup plus profonde. On voit que ce modèle français de la laïcité, il est testé, à mon avis, par deux choses, à la fois par l'islamisme et par des représentations qui sont importées quelque part et qui ont cours dans la sphère musulmane en France, où il y a une mauvaise compréhension parce que beaucoup ont une conception assez politique de l'islam, en forme de sphère qui doit englober beaucoup d'aspects de la vie, y compris la vie de la cité, et donc les considérations politiques. Ça, c'est la première chose. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'islam. La deuxième chose, c'est aussi ses idéologies. Enfin, c'est aussi une conception anglo-saxonne du monde qui est effectivement très véhiculée par la culture mondialisante et mondialisée, qui est un modèle communautariste que moi, je respecte parfaitement dans le cadre des États-Unis, du Royaume-Uni. Ce sont des sociétés communautaristes assumées comme telles, où effectivement, les communautés cohabitent, elles ne vivent pas ensemble, en réalité elles cohabitent, et donc elles ont trouvé le moyen de ne pas s'offenser à travers ce modèle-là. Sauf qu'en France, c'est pas comme ça que nous avons normalement choisi de vivre, et le fait que ce modèle soit testé
ça pose une question existentielle. On a le droit de blasphémer, on a le droit de se moquer de la religion, on n'a pas le droit dans ces pays-là, et là, chez nous, on a le droit, justement, parce qu'il y a laïcité, parce qu'il y a liberté d'expression, parce qu'il y a liberté du...
Exactement.
Voilà. De la conscience.
Et refus des communautés.
J'allais dire du vivre ensemble.
Et refus de la communauté.
Donc, est-ce que les Français comprennent suffisamment, parce que vous avez mis le doigt là-dessus, mais est-ce que les Français comprennent suffisamment le rapport, ou en tout cas le vecteur qu'il y a entre laïcité d'un côté et se parer contre l'islamisme radical, le terroriste de l'autre, quoi. Le pont est pas forcément très facilement franchissable.
Moi, je suis pas sûr que. Pardon. Merci. Je suis pas sûr que ça soit compris. Et d'ailleurs, j'ai remarqué dans le sondage de Marianne quelque chose de très intéressant parce que vous donnez les chiffres d'une année sur l'autre entre novembre 2020 et septembre 2021, et on voit que ça se dégrade. Ce qui est pas très encourageant. Ça veut dire que on aurait pu espérer qu'après l'affaire Samuel Paty, il y ait un travail pédagogique qui soit fait de prise de conscience, blabla. Et on voit que finalement, les scores sont plutôt, entre guillemets, moins bons, en tout cas en termes de laïcité, d'émotion, de choses comme ça.
Ça dépend des items.
Voilà. Donc, ça s'est pas arrangé. Ça a plutôt tendance à se dégrader. La deuxième chose qui est, en effet, quelque chose sur lequel il faut, on appartient. Alors, vous êtes beaucoup plus jeune, mais moi, j'appartiens à une génération. On se posait pas la question de la laïcité. Mmh. Alors bon, il y avait des religions. On connaissait même pas la religion de notre camarade de classe parce que ça nous intéressait pas.
Camarade de classe qui nous intéressait. Et puis on savait pas s'il était catholique,
protestant, juif, musulman. Le sujet n'émergeait pas.
Et on se disait,
grâce au ciel, bientôt il y aura plus de religion et on va arrêter de nous emmerder avec ça. Donc, c'est vrai que le retour du religieux avec cette violence...
Grâce au ciel, oui.
Bien sûr. Non, mais évidemment. Mais le retour du religieux de cette façon aussi fondamentale et brutale, c'est ça auquel, évidemment, nous ne sommes pas prêts. Parce que c'était considéré comme un acquis.
Alors, vous avez, dans le Figaro de ce matin, justement pour corroborer le sondage de Marianne, il y a un autre sondage dans le Figaro, et il y a plusieurs indicateurs, justement, un an après cette décapitation ignoble de Samuel Paty. Vous avez, par exemple, le communautarisme à l'école. Un an après l'assassinat, avez-vous le sentiment qu'à l'école, le communautarisme a plutôt régressé, progressé? Il y a quand même un tiers des Français qui estime qu'il a plutôt progressé, un tiers des Français. Et vous avez la menace terroriste. Comment est-ce que vous avez vu la menace terroriste dans notre pays aujourd'hui? 66% des Français disent qu'elle est plutôt élevée et 19% disent qu'elle est très élevée. Voilà, on en est un an après cet assassinat.
Mais les Français ont raison. La réalité, c'est que en 18 mois, nos services de renseignement ont déjoué 32 attentats.
Donc, c'est bien de le préciser.
Non, mais la menace terroriste.
Le premier ministre a justement précisé ça, c'est quand il était à l'intérieur, c'était Bernard Cazeneuve, a précisé publiquement le nombre
de personnes. Mais je pense que c'est important que les Français comprennent qu'il y a une vraie menace terroriste sur notre pays, de par notre modèle de société, de par notre modèle de laïcité, comme on a dit, qui était inédit dans le monde, de notre façon de vivre, notre liberté d'expression, effectivement, qui est aussi importante. Et donc, bien sûr que les Français, il faut que les Français que se rendre compte de ça.
Christian Proutot.
Oui, effectivement, nos services de renseignement ont fait du chemin, mais je n'aime pas cette manière de présenter des attentats déjoués. Parce qu'un attentat déjoué, c'est un attentat qui avait un commencement d'exécution, une préparation. Or, dans les sujets qui ont été présentés et dans les gens qui ont été déférés à la justice, s'il y avait des commencements d'exécution et des les éléments constitutifs, croyez-moi, on le saurait. Alors moi, j'aime pas trop cette terminologie, pas d'abord parce qu'elle est anxiogène et parce qu'en plus, elle correspond pas à une réalité. Il y a des gens qui se mettent, qui soutiennent une idée, qui veulent préparer quelque chose. Grâce aux renseignements, on anticipe sur l'opération, mais on n'a pas arrêté un attentat. On a arrêté des gens qui réfléchissaient sur la manière de nous nuire. Ouais, c'est pas la même chose.
Par exemple, la voiture dans laquelle on a trouvé des bonbonnes de gaz au pied de Notre-Dame, ça, c'est un attentat déjoué ou
non,
c'est un attentat raté?
C'est un attentat raté. Et là, il y aura une, ils passeront au tribunal.
Oui, il y a un procès.
Elles sont passées, je crois, d'ailleurs.
Absolument.
Voilà. Donc, je pense que la terminologie a son sens parce que c'est même important pour la crédibilité du système. S'il y avait autant d'attentats déjoués, ça veut dire que ça fonctionnerait et qu'ils seraient prêts de passer à l'acte, ou ils seraient pratiquement à l'acte. Et là, on aurait une réactivité telle qu'on empêcherait ça. Je crois qu'il ne faut pas dire ça. Je sais que on
donc
sera
il faut
pas...
dire qu'on a des services de renseignement qui travaillent
d'arrache-pied
sur...
Et qui anticipent suffisamment...
Voilà, qui anticipent les attentats plutôt qu'ils ne les déjouent.
Voilà, tout à fait.
Une pause et on revient avec Louis Osalter, Christian Proutot, Françoise Laborde et Xavier Iacovelli. A tout de suite, c'est Europe 1.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Reprise des débats d'Europe Soir, nous sommes avec le journaliste de Marianne Louis Osalter, le fondateur du GIGN, Christian Proutot, la journaliste Françoise Laborde, et le sénateur LREM Xavier Iacovelli. C'est Jean Castex qui donc recevra la famille de Samuel Paty demain, car dans un contexte sécuritaire, il faut le dire tendu, Emmanuel Macron se rend à nouveau à Marseille dès ce soir. Il s'y sera demain également, un mois et demi après son premier déplacement. Le chef de l'État vient faire une piqûre de rappel.
Oui, j'assume complètement que le devoir de la nation est d'être aux côtés des Marseillaises et des Marseillais. Parce que décider que ce serait une ville comme les autres, ce serait acter qu'elle va continuer à vivre au milieu de ses difficultés, les subir, et ne pas réussir pour elle-même, pour tout le territoire et pour tout le pays. C'est acter qu'elle ne pourra pas jouer le rôle qu'elle doit jouer dans cette Méditerranée à laquelle je crois profondément. Et donc, je pense qu'aider aujourd'hui Marseille à réussir, ça n'est d'abord pas lui faire l'aumône, c'est aider à déclencher quelque chose qui est là, mais c'est bon pour le pays tout entier.
Voilà, c'est bon pour le pays tout entier. Il y aura une troisième visite en février prochain. Comment est-ce que vous la voyez, cette deuxième visite d'Emmanuel Macron à Marseille? On a l'impression que c'est un marqueur, cette ville, cette cité phocéenne.
Bah, je pense qu'il est en campagne. Et que, voilà, il commence à faire la tournée des popotes et il revient à Marseille.
2022, c'est vraiment la campagne de on ne dit pas. C'est la campagne
anonyme. Oui, c'est la campagne
anonyme.
On se dévoile au dernier moment, absolument. Ouais.
C'est la campagne à la ville.
Oui.
Bravo. Merci Christian.
Bravo. Merci Christian. Voir la mer quand il s'agit de Marseille. Non, mais voilà, je pense qu'il est en campagne et que Marseille est sans doute en effet un enjeu. Alors, je ne suis pas dans la tête ni auprès des conseillers lisaïens. Ils ont dû faire des calculs très savants pour savoir que peut-être qu'il fallait en effet insister particulièrement sur cette ville. Je pense qu'il va faire une longue tournée. Oui.
Xavier Coeli.
Oui, enfin, écoutez. Je pense que Marseille est habituée aux annonces des différents gouvernements qui n'ont jamais abouti par des mesures concrètes. Je me rappelle de Jean-Marc Ayrault qui avait annoncé plusieurs millions que le Marseille attend toujours. La seule qui avait été à peu près honnête dans cette histoire, c'était Najat Vallaud-Belkacem qui, lorsque Marseille avait demandé une aide pour les écoles de Marseille, elle avait dit « Ouh là là, c'est pas moi, c'est la commune, moi je ne peux pas intervenir avec mon ministère ». Elle était ministre de l'Éducation nationale. Donc aujourd'hui, on a un président qui s'est engagé sur Marseille avec une situation catastrophique, 25 ans d'inaction de la collectivité marseillaise sous la droite. Un maire de gauche, on peut pas dire qu'il soit proche de Macron, qui décide d'appeler au secours le gouvernement, de faire un partenariat avec le gouvernement et avec le président, un président qui s'engage et qui nomme un préfet spécifique sur cette question du réinvestissement, de rénovation des écoles, de la sécurité dans les quartiers, qui nomme un préfet là-dessus, qui vient un mois et demi après pour faire un premier point, pour dire « Oh là là, moi j'ai pris des engagements, il faut que ça soit tenu ». Pardonnez-moi, mais c'est quand même assez rare venant d'un président.
Un élément principal. Dites-moi. Et tout cela, il faut terminer votre discours par Et tout cela à 8 mois de la présidentielle, ou 7 mois.
Oui, maintenant. Mais d'accord, mais vous m'avez fait, il y a un mois et demi, vous nous disiez, bah oui, mais de faire un plan pour Marseille à 10 mois des élections...
Ouais. Non, c'était 8, c'est... maintenant c'est 6.
Oui,
8,
8 pardon. À 8 mois des élections présidentielles, c'est un coup de com'. Alors... Sauf que la réalité, c'est que la situation marseillaise, elle est catastrophique, qu'aujourd'hui, on a besoin de l'action. Bien sûr que ce n'est pas en 8 mois que la situation marseillaise se résoudre.
Pourquoi maintenant?
Mais parce qu'il y a urgence. Et parce que le maire a fait une demande officielle. Il a appelé au secours parce qu'il a
vous
été
élu.
Vous pensez
que c'est le seul maire de France à appeler au secours
Bah, je ne suis pas sûr que toutes les villes de France soient dans la situation de Marseille.
Heureusement.
Il y a eu aussi, en la matière, un précédent, si je ne m'abuse, dans le Nord, où c'est pas une ville, mais c'est le département, la région, je ne sais plus, qui a appelé au secours parce qu'il n'arrivait plus à financer les aides sociales et le RSA. Donc, est-ce qu'on est en train...
François, je suis d'accord, mais regarde, la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis crie... Oui, on se connaît sur la question de la protection de l'enfance, donc ça, je me permets de...
Oui, oui, absolument.
Justement, sur la protection de l'enfance... La Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis a demandé, effectivement, depuis, je rappelle, c'était Bartolone, je crois, à l'époque, qui était encore président du conseil départemental, qui appelait au secours, qui disait qu'il ne pouvait plus payer le RSA. Et effectivement, moi, je suis favorable à la recentralisation des politiques sociales, que l'État prenne ses responsabilités et prenne en charge les politiques sociales pour éviter d'avoir des disparités d'un département à l'autre. Moi, je suis favorable à ça. Donc, moi, quand je vois le président de la République et le gouvernement qui dit « je vais aider la Seine-Saint-Denis et je renationalise le RSA en Seine-Saint-Denis bah, », j'applaudis dès demain.
Mais moi, je...
Attendez, laissez parler les autres. Lui, aux haltères.
À Marseille, je rebondis là-dessus, à Marseille, le problème, c'est qu'en fait, on voit certains mauvais effets de la décentralisation. Qu'est-ce qui va se passer ce soir à la préfecture des Bouches-du-Rhône?
Oui, Emmanuel Macron, c'est là où il y a le dîner.
Va mettre autour de la table le maire de Marseille, le socialiste Benoît Payan, la présidente de la métropole qui est LR, Martine Vassal, d'autres élus locaux. Tous ces gens-là, depuis des années, des décennies, s'entendent pas entre eux, se détestent, mais même quand ils sont dans le même camp politique, parce que sous Gaudin, c'était pareil, hein, des élus de droite, la ville était tenue par la droite, la métropole aussi, mais les élus de droite se détestaient entre eux, donc rien n'avançait. Et donc c'est une des raisons de la faillite marseillaise, c'est que l'enchevêtrement des compétences d'élus locaux et les haines recuites entre les mêmes élus locaux ont empêché énormément de projets d'avancer. À cela s'ajoutent évidemment les mauvaises habitudes que sont par exemple la cogestion avec Force Ouvrière quand il s'agit de la fonction publique de la ville qui conduit à un immobilisme parfaitement regrettable. Donc ce qui va se passer ce soir, ce qu'essaye de faire Macron en tout cas à la préfecture des Bouches-du-Rhône, c'est de mettre ces gens-là autour de la table et d'agiter le pompon des aides d'État, de l'argent dont ils ont cruellement besoin, en leur disant, les cocos, si vous ne vous mettez pas d'accord, l'argent de l'État ne tombera pas pour aller rénover les écoles, construire de nouvelles lignes de métro, rénover des transports.
Donc c'est ça la piqûre de rappel d'Emmanuel Macron.
Oui, et c'est aussi réaffirmer le rôle de l'État. Alors, je ne sais pas pourquoi il le fait aussi tard, mais là, il y a un gouvernement qui se rend compte que il faut que l'État...
Et puis mettre devant leurs responsabilités les élus locaux, parce que c'est aussi de leur responsabilité, quand même, toutes ces actions ces inactions depuis des années.
Et c'est un problème de compétences. Par exemple, vous voyez, il y a une aberration parmi d'autres. Le maire de Marseille, Benoît Payan est socialiste, la responsable de la RTM, qui est la Régie Marseillaise des Transports, c'est la chef de son opposition municipale, c'est une LR. Comme elle est nommée par la métropole, c'est elle qui s'occupe des transports marseillais, alors même qu'elle est une opposante frontale au maire de Marseille. Pardon, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous pouvez pas,
c'est quoi,
les transports de la ville ne peuvent pas être gérés par l'opposante
fantoche
du maire.
Non,
elle est une opposante. Elle a pris la tête de l'opposition municipale, et comme responsable des transports marseillais est nommée par la métropole, qui, elle, n'est pas dans le même camp que le maire de Marseille, c'est la décentralisation quand elle est poussée.
C'est la
répartition des compétences quand elle est poussée d'une manière
Non, mais c'est là où on voit les limites de l'exercice d'un pays qui est un pays central, qui a été centralisé pendant des années, qui a mis en place, qui a voulu inventer la. Pour la France, la régionalisation, c'est comme ça que ça s'appelle, et la manière dont ça s'est appliqué ensuite, ça a été que des petits potentats, et Marseille en est l'exemple le plus frappant, où ils se détestent à un point que... je ne connaissais pas cette situation, et c'est François Pupponi qui nous a raconté qu'il avait été responsable de répartition d'argent qui avait été prévu pour Marseille, et qu'à la fin de l'année, il n'était pas dépensé. L'argent n'était pas dépensé parce que, bien évidemment, c'était pas forcément le secteur qui arrangerait ceux qui avaient eu l'argent.
Je suis pas
donc,
sûr que ce soit une exception
française.
L'argent
n'était même pas demandé. Donc, il retournait
à faudrait vérifier.
Paris, envoyait de l'argent, mais l'argent n'était jamais dépensé. Et je crois, pour en revenir à la question que vous posiez, si effectivement Emmanuel Macron y retourne, s'il n'y était pas retourné, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Moi, je ne cherche pas à le défendre. Donc, il y retourne. Il a dit qu'il s'occupait du dossier, après tout, même si c'est parce qu'on est à 5 mois, ben tant mieux pour Marseille. Et je pense qu'au moins, ça sera efficace. Et il aura raison d'y retourner.
Françoise Laborde.
Mais moi, je trouve que en sous-jacent se joue toute la question de la décentralisation. On se rend bien compte aujourd'hui que la décentralisation est une immense pétaudière et que ça ne fonctionne pas. Que la dernière tentative sous Hollande, où on devait simplifier, ça rajoutait au contraire des strates supplémentaires, des intercommunes, des trucs, des machins, les départements. Et à chaque fois, qui a besoin d'avoir son hôtel de région, son hôtel de département, sa superstructure, etc. C'est une folie française. Donc on a remplacé le corps des préfets qui étaient des moines soldats, serviteurs de l'État incorruptibles qui en effet allaient de région en région par des élus qui forcément font un peu de clientélisme et jouent sur les différentes choses. Et nous connaissons bien tous les deux la question de la protection de l'enfance.
Avec Xavier Iacovelli.
Absolument, avec Xavier. Et c'est un des thèmes où on voit l'absurdité du système. Quand on est pris en charge par la protection de l'enfance dans les Landes, on peut être bien pris en charge jusqu'à 25 ans. Vous êtes dans le Nord à 18 ans. Enfin, on vous met dehors sans déménagement le jour de votre anniversaire. À la rue avec votre baluchon. On est chez les dingues. Donc, à un moment donné, il faudrait, oui, remettre à plat cette question. Et si la décentralisation pouvait être un thème de campagne, pourquoi pas ?
Mais ce serait formidable. Ça serait donc un thème de campagne directement pour Emmanuel Macron, dont on a dit souvent qu'il était jupitérien, et une façon aussi pour lui de dire, bah, regardez, finalement, quand ça vient d'en haut, c'est peut-être pas plus mal.
Peut-être.
C'est ça ?
Peut-être.
Je suis à la fois attaché à la décentralisation, mais pas sur tous les thèmes.
Ouais. C'est le en même temps.
Ouais. Non, parce que je pense que...
Alors, c'est en même temps, vous savez, c'est quand même une expression de Sciences Po. Hein, non, mais... Tout le monde dit en même temps rue Saint-Guillaume, et du coup, je pense que Macron a dû le choper un jour.
Thèse-antithèse.
Je pense sincèrement que les Français sont attachés à leur territoire, à l'identité de leur territoire. Je pense que la réforme sous Hollande des grandes régions a été une catastrophe. Enfin, je crois que la pire, c'est quand même certainement la Nouvelle-Aquitaine, entre Limoges...
La Grand Est, c'est pas mal aussi.
Oui, d'ailleurs, c'est très contesté. mais il y a juste l'Île-de-France qui a pas bougé. Mais enfin, on nous aura ajouté quand même une métropole avec des territoires, des départements, des territoires qui n'ont pas la fiscalité propre, donc qui ne peuvent pas agir, donc c'est une coquille vide, juste pour indemniser les élus, parce que c'est ça la réalité, choses. Des départements qui ont encore des compétences très importantes, mais une région qui demande de récupérer les compétences de la métropole. Enfin, plus personne n'y comprend rien. Et après, on s'étonne qu'il y ait 30% de participation aux élections territoriales. Donc je pense qu'il y a effectivement une vraie réforme territoriale à faire, une vraie réforme de la décentralisation. Oui pour la décentralisation, mais oui pour la recentralisation d'un certain nombre de politiques essentielles au pays, comme les politiques sociales, comme la protection de l'enfance. On a 101 politiques différentes de protection de l'enfance en France. C'est complètement dingue. Et c'est malheureusement pas la seule politique sociale qui pâtit de cette décentralisation. Donc je pense qu'il faut remettre tout à plat. Et j'ai l'impression de sentir quand même dans les volontés d'Emmanuel Macron, en tout cas, de faire en sorte qu'il y ait une vraie réforme sur cette question-là pour le prochain
en
quinquennat,
tout cas,
si tant est qu'il soit...
Il part avec un atout, Louis Osalter, c'est qu'il est quand même devant tout le monde dans les sondages et depuis plusieurs semaines maintenant.
Si on
est à 25%. Politiquement, il part avec un bagage qui est non négligeable.
Il a un socle.
À 6 mois et demi de la présidentielle.
Électoralement, il a un socle
qui bouge pas.
Qui bouge pas, exactement. C'est ça qui est important, en fait. C'est la dynamique de ce socle. C'est-à-dire qu'il est autour de 23-24% dans chaque enquête d'opinion. Et alors que les blocs bougent, on est complètement parti
au
long de Marseille.
Oui,
mais les blocs bougent beaucoup ailleurs. C'est-à-dire que, la dynamique Zemmour fracasse à la fois la droite, le Rassemblement national, en tout cas remet en question l'ordre des places, et que Macron peut contempler cette pré-campagne avec ravissement pour l'instant. Après, moi, je pense que les Français ne sont pas entrés en campagne, que pour l'instant, ils observent ça comme un spectacle, et que le jour où ils verront ils confient ou reconfient le bouton nucléaire, l'argent à déverser sur Marseille ou sur d'autres villes, les décisions de confiner et reconfiner, et toutes choses qui ont quand même une certaine importance, ils verront. Et que l'excès d'optimisme, 6 mois avant la présidentielle, en général, se paye cash.
Donc, cette incertitude pour le deuxième tour, quand on regarde aujourd'hui que Marine Le Pen est passée devant Éric Zemmour alors que ce n'était pas le cas la semaine dernière, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de recul.
Bien sûr. Puis il n'y a qu'un seul sondage qui a donné pour l'instant Zemmour devant Le Pen au premier tour. Et tout ça est dans la marge d'erreur. Mais Le fait politique est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quand même, quels que soient les sondages, il y a une vraie dynamique pour Éric Zemmour. Et l'enjeu de cette pré-campagne, c'est de savoir s'il peut s'imposer comme une alternative à Le Pen dans l'opposition à Macron. C'est tout simplement ça. Et si la droite aussi arrive à surnager dans ce rôle. Donc je pense que ce n'est même pas une question de chiffres et même pas forcément une question d'ordre des places. C'est est-ce qu'aux yeux des Français, Zemmour arrive à s'imposer comme quelqu'un de crédible et au-delà du candidat qui est venu juste faire un tour de piste pour agiter un peu le landerneau et imposer ses sujets, ce qu'il arrive à faire pour l'instant avec Talon.
Christian Proto.
Non, mais dès qu'on va arriver, je pense, dans le dur de la préparation d'une présidentielle, c'est-à-dire un programme, qu'est-ce qu'on fait économiquement, il y a une nuance énorme, je crois. Entre
ça, avoir c'est le grand trend, effectivement, qu'Éric Zemmour n'arrivera pas à convaincre au niveau économique et au niveau des mesures.
Moi, je le pense, parce qu'on ne peut pas limiter un discours. Le problème, c'est l'autre. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut proposer des solutions.
Ça a été fait. Hein. Une grande partie du discours de Joe Biden, par exemple, à la dernière élection, c'était anti-Trump, petit Trump. On a eu, dans les dernières semaines, enfin, je parle sous votre contrôle, mais on a eu vraiment dans les dernières semaines, semaines, on avait vraiment le programme économique de Joe Biden.
Non, mais on peut... Ça, c'est comme comparer...
M'engueulez pas, ça va.
Le programme de Macron, il très tard aussi, d'ailleurs.
Il y a le GIGN qui avait débarqué, là, ou quoi?
Non, mais absolument, parce que... Ce que je trouve... Comparaison n'est pas raison, j'aime pas cette formule, mais au moins, j'en connais pas d'autres. On n'arrête pas de dire, oui, Trump a fait ça, et là, Biden, vous me dites, sauf que, je suis désolé, eux, ils ont deux socles, deux parties solides qui fonctionnent bien, qui fonctionnaient bien. Et le delta entre les deux... était suffisant juste par rapport aux indécis. Là, on n'en est quand même pas. On est sur la partie, on parle du bloc Macron, et derrière, il y a l'émiettement. Hein. Tout le monde se bat pour les miettes. Hein. C'est la bagarre pour...
Mais on a un Zemmour aussi qui prend exemple sur Trump. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'un des exemples de Zemmour, c'est quand même Trump. Il a même été jusqu'à faire la même couverture de son livre. Donc je pense que effectivement, on ne peut pas comparer effectivement la politique américaine et la politique française, parce qu'effectivement, nous, on a un morcellement...
Alors qu'on le fait tout le temps. On ne peut pas. On le fait tout le temps.
Bah on le fait tout le temps quand même. C'est le même temps. Même chez Europe 1. Donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire.
C'est pas grave, on va faire une pause et vous allez retrouver vos esprits.
C'était pour gagner les primaires, en fait, Trump. Donc, à partir du moment où il les avait gagnés, il avait le parti républicain.
On revient dans un instant avec Xavier Iacovelli, Françoise Laborde, Christian Proto et Louis Osalter. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Retour des débats d'Europe Soir. Je vous donne quand même un rendez-vous tout à l'heure à 19h15. Un débat, en tout cas une discussion exceptionnelle entre Michel-Yves Bolloré, le co-auteur de Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, et le philosophe et ancien ministre Luc Ferry. Ça sera tout à l'heure à 19h15. Retour avec Louis Osalter, de Marianne, Christian Proto, Françoise Laborde et Xavier Iacovelli, sénateur LREM des Hauts-de-Seine. Où est-ce qu'on en était? Parce que, en plus, c'est Xavier Iacovelli qui ne retrouvait plus ce qu'il voulait dire. On en était à, effectivement, Emmanuel Macron qui était à Marseille pour ce grand deuxième rendez-vous dans la cité phocéenne avec des annonces, on imagine, demain. Et en même temps, on parlait aussi d'Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour est toujours là, il est un peu en catimini dans les sondages. Ce qui rapproche Emmanuel Macron...
Il est dans tous les sujets, d'ailleurs.
Et dans tous les sujets, ce qui rapproche en tout cas les deux candidats, c'est qu'ils ne sont pas candidats. Hein,
Oui, bien sûr, ils ne sont pas candidats. Ils ne lèvent pas de fonds, ils ne se préparent pas.
Ils ne font rien.
Ils ne font pas de déplacement en France.
Éric Zemmour ne fait qu'un salon du livre itinérant.
Les Français, les comptes de campagne sont ouverts depuis le 1er septembre, pour tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas candidats.
Merci pour ce rappel, monsieur le sénateur. Françoise Laborde, pardon, je vous ai coupé, vous vouliez
dire quelque chose. Non, mais ce qui est en plus, ce qui fausse le jeu, c'est qu'on attend le candidat républicain et que là, tout le monde est rentré au bercail.
On attend.
Non, mais je veux dire, nous qui sommes les observateurs, on attend. Mais parce que, donc ils rentrent tous au bercail, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, mais il y a encore un mois entier où tout ce petit monde va se regarder... dans le meilleur des cas, en chien de faïence.
Et dans le pire des cas.
Ça fait tard, dans le pire des cas, avec des coups bas. Mais c'est vrai que on voit pas bien comment, en tout cas les militants, parce que je crois qu'ils sont 80 000 militants inscrits, oui. Et peut-être qu'il n'y en aura que la moitié qui vont voter, donc 40 000 ça fait pas grand monde. Enfin, c'est pas énorme pour
mais ils peuvent encore adhérer, attention.
Mais c'est les plus déterminés qui vont voter.
Donc est-ce qu'ils vont choisir ceux qui ont essayé de vivre en dehors de la structure partisane, Pécresse et Bertrand, ou bien au contraire, ils vont choisir le commissaire européen? Oui, mais alors, la rumeur dit que justement, le fidèle, quand il était à Bruxelles, Barnier, pour ne pas le nommer, n'a pas été si présent que ça dans les instances du parti.
Oui, mais
que
il
ça
est soutenu
pourrait,
par Wauquiez. Il ne faut pas négliger le poids de Wauquiez.
Mais ça, c'est vraiment un marqueur important, le fait qu'il soit soutenu par Laurent Wauquiez.
Moi, je pense que pour les militants LR, c'est important. La parole de Wauquiez a encore du poids. D'ailleurs, je me rappelle que Wauquiez, il y a encore 4 ans, disait à Éric Zemmour, Éric, tu es ici chez toi. Donc c'est vrai que le marche-pied que les LR ont fait pendant 4 ans à Éric Zemmour, ils ont créé le monstre qui est en train de se dévorer.
Vous êtes en train de faire un parallèle entre Zemmour et Barnier, là, ou pas? Via Wauquiez. Non, mais parce que c'est comme les liaisons SNCF, là, visiblement.
Non. Là, vous allez un peu trop dans
votre esprit.
Je dis juste que les LR ont créé le monstre qui est en train de les dévorer.
Mais je pense que les militants LR, même s'ils sont très, très sensibles à la fidélité de Barnier, ils sont quand même aussi peut-être un peu sensibles au sondage. Et peut-être que s'ils voient que Barnier reste autour de 7%.
Oui, mais justement, on a dit que les sondages n'étaient pas importants parce qu'on était trop loin de la présidentielle. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas, et je parle sous votre contrôle, on n'a toujours pas. Comment dirais-je, le fameux essai transformé, c'est-à-dire que beaucoup d'observateurs disent, ben voilà, là il est à 17% dans les sondages, mais il sera peut-être à 3 ou 4. Est-ce qu'il va nous faire une chevènement en 2022?
Ah, Zemmour, oui. Bah là, c'est le point de bascule. C'est soit
mais ça, personne n'a l'air de savoir ça. Non. Et pourquoi est-ce que personne ne sait?
On peut pas savoir. Bah, parce que en fait, la volatilité du corps électoral est telle, et puis les gens répondent en ce moment à des sondages sur une élection pour laquelle ils sont pas sûrs d'aller voter, dont ils ne savent pas encore quelle sera l'offre politique complète. Donc vraiment, les sondages ne veulent rien dire à cette heure-là. Ils donnent juste des dynamiques. C'est vrai qu'il y a un phénomène Zemmour. C'est comme ça. C'est factuel. C'est une dynamique sondagière. Mais ça ne dit rien des niveaux d'intention de vote pour l'instant.
Et puis, il y a peut-être aussi un peu d'espièglerie, si je puis me permettre. Parce qu'au fond, quand les sondeurs disent vive Zemmour ou je vote Zemmour, même s'ils n'ont pas l'intention de le faire, c'est une façon aussi de dire à la classe politique, regardez, voilà, ce garçon dit des choses qui nous intéressent, écoutez-le. Et d'ailleurs, ça marche, puisqu'on a vu qu'il y a eu un certain nombre de décisions, de prises de position qui ont fait évoluer. Donc, on peut imaginer aussi que l'opinion joue un peu avec les sondages qu'on propose et sur Zemmour parce que en effet il fait émerger
c'est
des thèmes qui intéressent
tout
le monde.
Mais alors comment est-ce que vous expliquez, moi c'est la question que je me pose à chaque fois, comment est-ce que vous expliquez que des jeunes, des hordes entières de jeunes de 17 à 25 ans se précipitent au meeting de Zemmour et on dirait qu'ils font abstraction des choses totalement abjectes quand même qu'il a dit ces dernières semaines, notamment sur Mengele, notamment sur Vichy, sur Pétain. Comment est-ce qu'on se met là dans la tête, vous avez l'occasion de travailler les uns et les autres avec justement avec des jeunes. Comment est-ce qu'on peut se dire, bah tiens, moi je fais mon marché. Ce qui m'intéresse, c'est son discours sur l'immigration. En revanche, effectivement, il dit des trucs dégueulasses sur Vichy, mais je tant pis, c'est pas grave.
Juste
pour dire que
ils sont polis.
Pense que leur référence historique aussi, ils vont les acheter chez Zemmour, comme vous dites. C'est-à-dire que Zemmour a cette particularité d'avoir forgé la culture politique historique d'un grand nombre de personnes. Et à l'heure où, il y a peut-être moins de niveaux culturels, historiques qu'avant, et peut-être moins et c'est pas la façon de la forger n'est pas la même. Aujourd'hui, on va un peu faire son marché, comme vous l'avez très justement dit, notamment sur Internet, dans les bouquins qui existent, sur les références qu'on a.
C'est comme ça que les civilisations fonctionnent.
C'est
une minorité. Mais à partir du moment où...
Christian Couteau.
Je dis c'est une minorité, sinon il aurait plus de voix. C'est une minorité qui se déplace, qui est active, c'est celle qu'on voit. C'est la même chose que pour ce qu'on a vécu pendant un an avec la maladie. On a tout d'un coup un variant, là, le variant Delta est passé en variant Z. Et tout le monde, passe.
C'est l'histoire des calembours.
Et donc le vaccin, c'est le vote dans les élections.
Je pense qu'il y a deux raisons à ça. D'abord, je pense que pour la jeune génération, c'est de l'histoire ancienne.
Il y a ça aussi.
Voilà, c'est du passé.
Enfin, c'est un passé,
on le sait tous, qui peut se reproduire.
Je n'en dis combien pas, mais déjà
c'est
que,
pour ça qu'on a
mais déjà qu'à l'école,
mémoire,
ils n'ont pas appris la guerre 39-45 parce que les profs d'histoire n'osent pas leur en parler. Je suis pas sûr qu'ils aient les bons référents historiques. Bah parce que c'est la vérité. Parce que la plupart des profs d'histoire, c'est bête, le programme n'arrive pas jusqu'à la guerre 39-45. Mais c'est un autre débat.
Ah bon?
Oui. On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Puis comme ça, ça évite
des chapitres.
Non, mais ça évite des sujets qui fâchent, bien sûr.
Donc enfin, ça, si on évite tous les sujets qui fâchent, dis-donc.
C'est
un peu
le drame de l'éducation nationale, mais bon, c'est un autre débat. Mais je pense qu'il y a ça, cette idée que c'est l'histoire ancienne. Et je pense aussi, j'ai lu ça dans un sondage, que les jeunes sont plus à droite qu'on ne l'imagine. Pour deux raisons. D'abord, ils sont plus individuels qu'avant, c'est sans doute le fruit de la vie sur Internet, les réseaux sociaux. Ils ne se sentent pas appartenir forcément à un groupe. Ils vivent dans un groupe, mais chacun individuellement. Et leur projection dans l'avenir ne s'inscrit pas dans un projet collectif. Le collectif n'a pas le sens pour la jeune génération qu'il pouvait avoir pour la mienne. Et c'est ça qui sans doute fait qu'il y a une jeune génération qui est plus à droite qu'on l'imagine. Ils ne se reconnaissent pas dans le collectif, peuvent se reconnaître dans le groupe, mais un groupe qui n'est pas forcément structuré. Et donc, ils ont des aspirations individuelles. Ils sont plus d'ailleurs dans l'auto-entreprise, dans le micro-projet, dans le micro-capitalisme.
Dans la micro-élection.
Non, mais c'est vrai.
Alors, je vote pour
je
vous,
pense
mais
que
alors uniquement
chose...
pour la partie...
Mais absolument. Mais absolument. Non,
les gribouillages sur les bulletins.
Oui, ils peuvent passer d'un parti à l'autre en fonction, de l'élection. Bien
ce que
sûr.
Dit Françoise Laborde, je suis effondré parce que j'ai toujours cru que si on n'était pas révolutionnaire à 18 ans, on ne le serait jamais. Là, si à 18 ans, ils ne sont même pas révolutionnaires, c'est fini. Ben s'ils sont à droite, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me paraît
bizarre.
C'est le
en même temps, en même temps là. Hein. Ouais.
Mais Marine Le Pen avait attiré aussi, lors de la dernière présidentielle, énormément de jeunes. Et donc, d'ailleurs, on voit des vases communicants importants dans les sondages, en tout cas, entre l'électorat de Marine Le Pen et celui de Zemmour. Donc, ce qui prouve bien que l'électorat, peut-être de 2017, se déporte petit à petit vers Zemmour.
Je voulais terminer cette émission avec vous parce que tout à l'heure, on a ce débat entre Luc Ferry et Michel-Yves Bolloré qui publie Dieu, la science et l'épreuve. Je voulais terminer par cette carte postale qui nous vient de Cologne, en Allemagne. La maire élue sans étiquette vient d'autoriser les mosquées à diffuser l'appel à la prière du vendredi. Donc, qui est la plus importante de la semaine. Un chant déjà autorisé dans une trentaine d'autres communes. À Cologne, 12% des habitants sont musulmans. C'est l'une des communautés les plus importantes d'Allemagne. Et dans la ville, trois mosquées ont pour l'instant entamé les démarches. Reportage de Mélina Fachin.
Pour l'instant, l'appel à la prière ne retentit que dans l'enceinte de la grande mosquée de Cologne, mais bientôt, c'est ce que pourront entendre les habitants du quartier dans leur rue via des haut-parleurs. Plutôt habitués aux cloches de l'église, cela ne leur pose toutefois globalement pas de problème.
Je suis pour la liberté des religions. Entendre les cloches sonner, pour moi, c'est la même chose que d'entendre le muezzin chanter.
À certaines conditions quand même.
J'aimerais bien que ce ne soit pas trop fort et en allemand.
Alors l'appel à la prière se fera bien en arabe, mais il y aura des règles. Ce ne sera que le vendredi, entre midi et 15h, 5 minutes maximum et sans dépasser un certain volume. Chaque mosquée va en discuter avec ses voisins. Pour Mustapha, imam de la grande mosquée, pas de quoi créer une polémique.
Les gens ici sont très ouverts. Porter notre voix à l'extérieur, on accueille ça avec beaucoup de joie.
Dans les faits, le chant du muezzin ne résonnera pas tout de suite dans la ville. Chaque mosquée va d'abord devoir demander une autorisation à la mairie. Et pour l'instant, seuls 3 sur 35 se sont manifestés. Cologne, Mélina Fachin, Europe.
Alors, on parlait de la laïcité justement tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative?
Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour en France.
Surtout par les temps qui courent. Attendez, là il y a un rire unanime. Pourquoi est-ce que vous riez?
Parce qu'on est en période préélectorale et qu'on a déjà tellement de débats sur l'irruption du fait religieux dans la ville. Déjà, dans la moitié des villages de France, tout le monde proteste parce que la cloche sonne tout le matin. Alors, une fois dans la journée, le dimanche à midi, et puis le premier mercredi du mois à midi, la sirène en cas d'incendie. Donc, ça, c'est déjà les deux trucs qu'on connaît. Et puis la cloche, une fois par semaine, le dimanche, ou juste une fois le matin, une fois le soir, pour régler sa montre. Voilà. Donc, je pense qu'on est dans un pays où on n'est pas prêt à ça, non?
Oui, enfin, on est dans. Alors, c'est vrai, dans un. Non, mais pour régler sa montre, alors qu'en fait, aujourd'hui, on a des téléphones.
Je pense qu'il y a quand même. Il y a quand même une France. J'allais dire des champs, des bosquets, des guérets.
Vous êtes dans les Hauts-de-Seine, mais enfin, c'est vrai que
oui,
le Sénat...
Oui, parce qu'en termes de ruralité, si vous voulez, les Hauts-de-Seine, c'est quand même... Il y a un peu mieux, quoi.
Qui
existe et qui, évidemment... période électorale.
Commentaire, Xavier.
Oui, bon, effectivement, je ne pense pas que ça arrive jusqu'à la France, mais ce qui prouve bien d'ailleurs la spécificité française, oui, y compris vis-à-vis de l'Allemagne, dont on parlait en début d'émission. Effectivement, en France, certains se plaignent des cloches. Donc,
parfois même du coq, même.
Du coq, oui. C'est vrai, il y a eu des pétitions contre les coqs. Donc non, je ne pense pas que ça arrivera en France. D'ailleurs, ce n'est pas... Enfin, moi, je lisais un article du Figaro, là, justement, sur cette situation où 61% des Allemands sont défavorables à ça. Donc là, il y a effectivement votre reportage montre plutôt un avis favorable, en tout cas.
Il y a des grands débats.
Bienveillant, mais il y a un vrai débat aussi, y compris en Allemagne.
Ah, bah bien sûr. Alors, sur la question, en fait, il faut quand même se poser la question en France. Qu'est-ce qu'on fait si demain, effectivement, une mosquée demande à pouvoir appeler à la prière dans l'espace public le vendredi, sachant qu'il y a des cloches des églises chrétiennes qui sonnent tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait en termes légaux? Comment ça se passe? Est-ce que la laïcité le prévoit? Il faut quand même qu'on se prépare à répondre à cette question, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Il y a de plus en plus de musulmans en France. Certains sont moins pratiquants à mesure qu'ils s'intègrent à la société française. D'autres s'intègrent moins, on le sait aussi, malheureusement. Et puis d'autres, de bonne foi, veulent continuer à pratiquer leur foi et à la pratiquer, y compris en ayant cette présence.
Oui, mais peut-être qu'il
ne
faut pas
public.
Non plus culpabiliser les musulmans qui n'ont pas envie de répondre à l'appel à la prière.
Ah, mais
vous voyez ce que je veux dire?
Ah, mais je suis tout à fait d'accord.
Et d'ailleurs,
et qui peuvent tout
et
à
ne
fait...
pas expliquer qu'être musulman, c'est porter un vol obligatoirement et
absolument
faire des appels à la prière.
Mais d'ailleurs, l'appel à la prière n'est pas d'ailleurs dans le Coran. Quoi.
Mais
je ne sais pas si on n'a pas créé un texte qui pourrait éviter ça. Il n'y a pas un texte qui vient d'être fait pour protéger les odeurs et les bruits spécifiques.
On a inscrit dans la loi les bruits de la campagne.
De la campagne. Or, ça serait un bruit nouveau. Donc, il ne serait pas inscrit. Donc, il y aurait moyen de dire qu'il n'est pas autorisé.
Qu'il est anticonstitutionnel.
Merci à vous quatre. Merci à Françoise Laborde, Xavier Iacovelli, Christian Proutot et Louis Osalter. Dans un instant, le journal de 19h, bien sûr. Et après, débat exceptionnel sur Dieu, la science et l'épreuve. Michel-Yves Bolloré, co-auteur de ce livre, face à Luc Ferry. Comment l'univers a commencé? Y a-t-il un grand architecte? Qu'est-ce qu'il y avait avant? 5 siècles de découvertes scientifiques remises en question ces 100 dernières années. À tout de suite.
Europe Soir, 18h, 20h.
Pierre de Villeneuve.
Des siècles, la question de l'existence d'un créateur de l'univers se pose. Thèse, antithèse, déchirement, les matérialistes, les sceptiques, les scientifiques, les physiciens, les astrophysiciens, les athées, les croyants. C'est une incessante et perpétuelle partie de ping-pong entre ceux qui disent que l'univers s'est créé tout seul et ceux qui disent qu'il faut un point de départ, un grand architecte, quel qu'il soit, qu'on l'appelle Dieu d'ailleurs ou pas. Et alors que l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan, dans son dernier livre publié en mai, promet des révélations fracassantes dans les prochains 30 ans, deux entrepreneurs ingénieurs, Olivier Bonassi et Michel-Yves Bolloré, signent ce mercredi « Dieu, la science, l'épreuve », 570 pages, où les thèses et les découvertes scientifiques sont passées au crible. Bonsoir Michel-Yves Bolloré.
Bonsoir.
Merci d'être dans ce studio face à Luc Ferry. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous connaissez bien tous les deux.
Oui, on se connaît bien.
Vous n'êtes pas forcément d'accord sur
les thèses. On n'est pas d'accord, mais on est amis.
Voilà. Michel-Yves Bolloré, vous signez donc ce livre et cette question simple. Vous êtes ingénieur, entrepreneur, homme d'affaires. Pourquoi s'attaquer avec ce livre à l'une des questions les plus difficiles au monde ?
Écoutez, c'est intéressant, on peut ouvrir le débat en citant un sondage qui est paru très récemment, il y a environ 15 jours, de l'IFOP. Et dans ce sondage, on apprend que 51% des Français ne croient pas en Dieu, 45% des Français croient en Dieu, et puis il y a 5% entre les deux. Donc on voit que les Français sont aujourd'hui très partagés sur cette question. Et nous avons voulu écrire ce livre, « Dieu, la science, l'épreuve », pour qu'ils puissent disposer de tous les éléments qui leur permettent de se forger un jugement éclairé sur cette question, en s'appuyant essentiellement sur les découvertes scientifiques extraordinaires du XXe siècle, qui sont venues apporter énormément d'éléments sur cette question et remettre complètement sur la table la question de la nécessité d'un créateur.
C'est ce que vous appelez le grand retournement. C'est-à-dire que pendant des siècles, il y a eu des thèses différentes. Ça commence par Copernic, et puis et ensuite...
Voilà, tout à fait. Alors, en fait, si on regarde, si on veut simplifier...
On fait un schéma.
Si on veut simplifier jusqu'en 1550, grosso modo, tout le monde croit en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une raison déjà très simple, c'est qu'on ne peut pas expliquer l'univers sans Dieu. Et puis à partir de 1550, il y a une grande révolution qui commence scientifique avec les découvertes que nous connaissons tous, c'est-à-dire celles de Copernic, de Galilée, Newton, puis Buffon, qui découvre que l'âge de la Terre est très ancien, puis l'évolution avec Lamarck, puis l'évolution avec Darwin. Et toutes ces découvertes tendent à montrer qu'au fond, finalement, un créateur n'est pas nécessaire à l'existence du monde. Mmh. Et donc l'opinion des gens va suivre ces découvertes scientifiques. Et puis en fait, ce qui s'est passé, et donc en 1900, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1900, grosso modo, la plupart des intellectuels sont incroyants, athées, agnostiques, etc. Mais ce qui est très très intéressant, et c'est le récit, parce que c'est aussi un récit historique dans ce livre, c'est qu'à partir de 1920-1930, il y a un complet renversement des découvertes de la science qui vont venir mettre sur la table des problèmes absolument majeurs, qui sont l'un, le premier, le début et la fin de l'univers. Notre univers va avoir une fin et il a eu un début. Deuxièmement, il est doté de réglages qui sont extrêmement complexes. Et puis troisièmement, le passage de l'inerte au vivant est, par les simples lois du hasard est tout à fait impossible. Donc c'est ça ce qui rebat les cartes.
Luc Ferry, vous dites que l'existence de Dieu, si elle était prouvée, depuis le temps ça se saurait.
C'est pas seulement ça, c'est que ça tuerait la religion. Si on pouvait prouver l'existence de Dieu, les religions disparaîtraient, puisque par définition, la foi et le savoir sont antinomiques. J'ai pas besoin de croire que 2 plus 2 égale 4, puisque je le sais. J'ai pas besoin de croire que je suis assis à côté de vous, puisque je le vois.
Oui.
Et donc, si on pouvait prouver l'existence de Dieu, que ce soit par un raisonnement logique, comme on pensait au Moyen-Âge, avec les fameuses preuves de l'existence de Dieu, ou que ce soit par la science, comme certains le pensent aujourd'hui, prouver l'existence d'un Dieu créateur, ce serait la mort des religions. Puisqu'on n'aurait plus besoin de la foi. J'observe d'ailleurs que dans les évangiles, moi j'ai écrit un livre avec le cardinal Ravasi à la demande de Benoît XVI qui m'avait choisi comme interlocuteur de son ministre et sur la question de la signification du message de Jésus pour les non-croyants.
Oui.
Et ce qui est très intéressant dans l'attitude de Jésus par rapport à cette question de savoir s'il est divin ou pas, c'est qu'à aucun moment... je peux vous mettre au défi de trouver un mot dans l'évangile qui irait dans le sens contraire. Il ne fait appel à un raisonnement ni scientifique, ni logique, ni mathématique pour prouver qu'il est le Fils de Dieu. Jamais. C'est le diable qui lui demande ça.
Bon, alors...
C'est le diable qui lui demande. Juste termine avec ça. Le diable, c'est les fameuses tentations du Christ. Le diable le fait monter au pinacle. Le pinacle, je rappelle que c'est le sommet du temple. Et lui dit, si t'es vraiment le Fils de Dieu, t'as qu'à sauter.
Oui.
Et il y aura des anges qui viendront t'empêcher de t'écraser par terre. Et Jésus lui dit, il ne faut pas défier Dieu. Et donc, à aucun moment, Jésus... fait appel à quelques raisonnements que ce soit pour faire croire qu'il est le fils ou pour faire accroire qu'il est le fils de Dieu. Et ce qu'il demande, c'est la confiance. Cum fides, c'est la foi. Et la foi est antinomique du savoir.
Du savoir et donc de la science.
Évidemment.
Et donc de la science.
Donc la science peut poser les questions, mais pas donner les réponses.
Je voudrais dire deux choses. Alors, première, je voudrais vous dire une chose, c'est que notre livre ne touche absolument pas ni à la religion, ni à la foi. Donc c'est un sujet qui est étranger à notre livre.
C'est-à-dire qu'il l'évoque, mais en tout cas...
c'est en dehors.
Quand on parle pas de philosophie,
Oui, on l'effleure. Mais on ne parle ni de philosophie, ni de religion, ni de foi. En fait, nous avons un sujet unique, c'est qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la science du XXe siècle peut dire aujourd'hui de l'existence ou de la nécessité de l'existence d'un Dieu créateur. Alors pour revenir à ce qu'a dit Luc, qui dit qu'il n'y a pas de preuves, il faut s'entendre tout de suite sur une question. Il n'y a de preuves absolues, c'est-à-dire des preuves définitives, éternelles, etc., que dans le domaine des mathématiques. Dans les autres domaines, il n'y a pas de preuves.
C'est pour ça que vous commencez le livre par « qu'est-ce que c'est qu'une preuve ?»
Exactement,
comment est-ce qu'on la définit ?
Qu'est-ce que c'est qu'une preuve ? Quand on parle d'un nom populaire, un mot habituel qui est une preuve, etc., ça a beaucoup de signification. En réalité, dans le domaine du réel, il n'existe aucune preuve de rien. Il y a, en science, on fait des thèses, on fait des théories, et on regarde si les implications de ces théories sont conformes à la réalité. Alors, en fait, jusqu'à maintenant, pour Dieu, on ne pouvait rien faire. Mais l'inexistence de Dieu a des implications. Si vous soutenez la thèse « Dieu n'existe pas », ça a des implications, et ça a des implications qui sont notamment le fait que l'univers ne peut avoir ni fin ni début, parce que rien n'est jamais sorti du néant. Je parle de vrai début. Rien n'est jamais sorti du néant, pour plusieurs raisons, dont simplement une raison scientifique, c'est que il y a la conservation de l'énergie et de la matière, et donc que c'est tout à fait impossible. Donc, la première question qui est mise sur la table par les découvertes du XXe siècle, c'est le début et la fin de l'univers. La deuxième, c'est le fait qu'on a découvert que les réglages de l'univers sont incroyablement précis.
Le fameux réglage fin.
Voilà, le fameux réglage fin, on en parle. Même tous les scientifiques sont absolument
Vous allez nous éclairer là-dessus. Hein,
oui, mais on en parlera, exactement. Ouais. Voilà. Et puis le troisième, c'est le passage de l'inerte au vivant, c'est-à-dire de la matière à la première cellule vivante.
Luc Ferry.
Mais ça ne prouve strictement rien. Sinon qu'il y a des choses mystérieuses à l'origine du monde. La science d'aujourd'hui, donc les exemples que donne Michel Yves, que ce soit la mort thermique, que ce soit la question du Big Bang, que ce soit la question du fameux fine-tuning, le réglage fin, ça veut dire que la science s'approche du mur qui sépare la religion et elle-même, la science. Parce que quand on parle de Dieu, c'est quand même la religion qui est derrière. Bon. Et donc, ce mur est infranchissable, sauf par la foi. Il ne peut pas être franchi par des preuves, il ne peut être franchi que par la foi. Sola fide, disait Luther, il a par la foi seul. Pourquoi c'est comme ça? Il faut argumenter. Parce que Dieu n'est pas un objet d'expérience. Par définition, si on parle d'un Dieu créateur, ça veut dire qu'il est hors du monde. Mmh. Donc ça veut dire qu'il est hors de l'espace et du temps, qu'il est hors du monde sensible. On ne peut pas observer Dieu comme on observe la vie des ours ou la vie des lions ou des éléphants ou comme on observe une éclipse de lune ou comme on observe même le réchauffement climatique. Et par conséquent, comme il n'est pas un objet d'observation, qui n'est pas un objet d'expérience, il n'est pas un objet de science. Donc la science peut faire des hypothèses, elle peut s'approcher du mur. Elle peut dire, ben voilà, franchement, il faut bien qu'il y ait un créateur. Bon, mais cette hypothèse-là, en vérité, elle est déjà trop forte pour être réaliste. La seule chose qu'on puisse dire avec la théorie du Big Bang ou avec la mort thermique de l'univers, ou avec le fine-tuning, le réglage fin, c'est qu'à l'origine du monde, il y a un mystère. Mm. Encore une fois, c'est ce que Heidegger appelle le mystère de l'être, ou Schopenhauer l'étonnement philosophique qui porte non pas sur tel événement particulier, mais qui porte sur le fait même qu'il y a un monde. C'est très bizarre, c'est très étonnant. C'est le mystère de l'être. Mais appeler ce mystère de l'être Dieu, c'est franchir un saut. On a le droit de le faire. Hein, je ne dis pas du tout qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais on ne peut le faire que par la foi, pas par la raison.
Alors je ne suis pas du tout...
Réponse de Michel Yves Bolloré. Ouais. Juste après, une pause sur Europe 1. Et on revient
c'est
dans
vache,
le débat.
Ben,
je ne peux pas faire autrement. Luc Ferry, Michel Yves Bolloré, Dieu, la science, l'épreuve. À tout de suite.
On se retrouve.
Europe Soir. Pierre Devineau.
Retour des débats d'Europe Soir. Il y a un invité il n'y a pas très longtemps qui me disait on devrait faire une émission uniquement pendant les publicités, pendant les pauses publicitaires, parce que là, le débat continue. Et alors là, c'est effectivement, ce soir, je peux vous dire qu'il y a quand même deux, trois choses qui se sont dites entre-temps. Alors, Luc Ferry vient de prendre la parole. Michel-Yves Bolloré, vous répondez à Luc Ferry. Et alors, j'ai l'impression que vous ne serez jamais d'accord parce qu'il y a un philosophe d'un côté qui parle de métaphysique et de l'autre côté, un scientifique qui parle de
l'intersection
de science.
Entre la physique et la métaphysique. En réalité, c'est tout à fait possible de conclure, même sans avoir des preuves absolues, parce qu'en réalité, il n'y a que deux thèses à peu près rationnelles sur l'univers. La première est matérialiste et elle expose que l'univers est entièrement matériel, qu'il n'a donc aucune cause hors que lui-même, et donc il se suffit à lui-même. Mmh. Il y a une autre thèse qui dit qu'il y a un Dieu créateur qui a créé l'univers. Et ces deux thèses, si vous voulez, sont grosso modo recouvrent pas tout à fait, mais disons quasiment la totalité du champ du possible. Ces deux thèses ont des implications. Et ces implications, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant dans le monde moderne, c'est que ces implications, on peut les vérifier dans le monde actuel avec les découvertes qui sont en raisin. Si l'univers est entièrement matériel, il y a au moins trois implications qui sont absolument majeures. La première, c'est que l'univers ne peut pas avoir de début et de fin. Mmh. Scientifiquement, c'est absolument vrai. Notre livre est préfacé par un des plus grands savants de notre époque, qui est Robert Wilson, qui a découvert le rayonnement fossile cosmologique, c'est-à-dire en fait l'écho du Big Bang, qui a donc apporté la preuve du Big Bang. Il est prix Nobel, il est un croyant, c'est très intéressant, il nous a fait trois pages de préface, et il nous dit si la thèse du Big Bang est vraie, comme il semble d'ailleurs, et qu'il y a eu un commencement à l'univers, alors on ne peut pas échapper à la question de la création. Donc vous voyez, Robert Wilson, qui est un scientifique et qui en plus est un croyant, le dit lui-même, il y a un problème de création. Donc il y a deux thèses possibles. Ou bien il y a un Dieu créateur qui a créé, oui. Et l'autre... Donc on peut voir...
Et alors, dans la thèse où il n'y a pas de Dieu créateur, il y a un problème ben, a sur un problème ce qu'on appelle
aujourd'hui,
le réglage fin.
Mais aujourd'hui, la thèse de l'inexistence de Dieu, je dirais que rationnellement, elle ne tient plus debout. Parce que d'une part, on sait que l'univers a un début et une fin, et d'autre part, on sait que les constantes qui gouvernent l'univers sont extrêmement précises. Je vais en donner juste un exemple. Il y a en gros une trentaine de constantes qui déterminent l'univers. Mais il y en a une qui nous est très très connue, c'est la gravité. Si vous laissez tomber une pièce de monnaie ou un sucre comme ça, elle va mettre exactement une seconde à tomber sur la Terre et ça dépend d'une constante qui est 6,67,430. Qu'est-ce qui serait passé si cette constante était un dix millième différente en plus ou un dix millième différente en moins? On sait aujourd'hui, par la modélisation de l'univers, que l'univers n'existerait plus dans les deux cas. Ça n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les savants. Donc si vous voulez, nous avons un vrai problème en ce qui concerne ces constantes, c'est que nous savons que les constantes sont extrêmement précises. Un autre exemple qui est encore plus frappant, c'est la vitesse d'expansion initiale de l'univers. Un des grands savants a déterminé que si on changeait la 15e décimale de cette vitesse d'expansion, l'univers n'existerait plus, que ce soit la 15e décimale au-dessus ou la 15e décimale en dessous. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait réglé ça.
Luc Ferry.
Alors, l'idée selon laquelle il n'y a que deux thèses pour expliquer l'origine du monde, la thèse matérialiste, ça, tout vient de la matière, y compris le vivant, la soupe primitive aurait produit le vivant, ou la thèse d'un dieu créateur, cette idée-là est totalement fausse.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a une autre thèse qui, depuis Kant, depuis le XVIIIe siècle, depuis la déconstruction de la métaphysique et depuis la déconstruction de ce genre de discours, me paraît être la seule qui soit vraie, et on la retrouve chez Heidegger, c'est l'idée qu'il y a le mystère de l'être. Leibniz pose la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Vous pouvez y répondre, en effet, soit par la matière, soit par un dieu, mais il y a une troisième hypothèse, vous pouvez dire, mais la science ne peut pas répondre à ça. Grand point d'interrogation. Et pourquoi c'est très important ?
Donc on peut s'arrêter au fait que la science ne peut pas répondre, plutôt que de dire, il y a un architecte derrière tout ça.
Évidemment, parce que par définition, le principe de causalité, vous cherchez la cause de la cause, la cause de la cause de la cause, et puis la cause de la cause de la cause, etc. Et donc, toute explication scientifique se perd dans les sables, dit Schopenhauer, comme disciple de Kant. Il n'y a jamais d'explication ultime. Vouloir trouver un fondement ultime au monde, c'est l'illusion métaphysique par excellence. Et pourquoi c'est très important de comprendre ça ? Parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais pardon d'y revenir parce que c'est évidemment mon argument le plus important, en tout cas à mes yeux.
L'argument massue.
Si on pouvait vraiment prouver par la science l'existence de Dieu, c'est-à-dire si on pouvait franchir le mur qui sépare métaphysique et science par la raison, par des preuves, alors ce serait la mort des religions, en tant qu'elles reposent sur la foi. Parce que ce que dit, encore une fois, ce que fait Jésus, et moi ce qui m'intéresse, c'est aussi le message du Christ, il est quand même très important sur ce sujet-là. Ce qu'il demande toujours, c'est la confiance, c'est la foi, c'est surtout pas des preuves, c'est le diable qui demande des preuves. Et je vous donne un exemple qui est quand même très important. Quand Jésus marche sur l'eau à la rencontre de Pierre, tout le monde connaît, on dit « Jésus marche sur l'eau ». Bon. Les gens, la plupart du temps, oublient que Pierre aussi marche sur l'eau. Jésus l'appelle, Pierre, son ami, est dans une barque à quelques centaines de mètres, il est loin, le temps est mauvais, il y a du vent, il y a un orage, bon. Et Jésus appelle Pierre, et Pierre commence à marcher sur l'eau. Comme Jésus. Et il y a un moment où il y a un coup de vent et Pierre a peur, il doute, parce qu'il trouve quand même que c'est bizarre de marcher sur l'eau. Bon, il doute et il sombre. Et que lui dit Jésus ?
Tu n'as pas
Jésus
la foi.
Il lui dit « homme de peu de foi ». Voilà. Et donc, il aurait pu lui dire, s'il était Michel Yves, il lui aurait dit « écoute, j'ai transformé l'eau en glace, et n'importe quel scientifique te montrera qu'on peut marcher sur la glace ». Mais ce n'est pas ça. Ce qu'il demande, ce n'est absolument pas des preuves, c'est la confiance. « Cum fides ». Et donc, si on pouvait prouver l'existence de Dieu par la science, par des raisonnements, les religions seraient mortes. Autrement dit, paradoxalement, la seule chose qui puisse me faire croire en Dieu, si jamais, quand j'étais croyant, je l'ai été, c'est la personne du Christ. C'est son message extraordinaire, c'est sa bonté, c'est son autorité. Mais surtout pas une preuve. La preuve, elle est à la limite diabolique.
Michel-Yves Bolloré.
Écoutez, Luc expose très bien, d'ailleurs, si je puis dire, sa partie philosophique.
J'ai fait 3 ans de biologie, je tiens à le dire, je suis d'abord scientifique.
Nous avons dans notre livre un chapitre entier qui est consacré à des citations des très grands savants, essentiellement des prix Nobel. Et on a trouvé que c'était très intéressant parce qu'en fait, ce que nous disons l'un ou l'autre, bien sûr, peut être intéressant, mais ce que disent les prix Nobel est tout à fait vraiment passionnant. Et donc, nous avons un chapitre où nous avons 100 citations de grands savants de prix Nobel. Et les grands prix Nobel sont tous très étonnés par ce qu'ils ont découvert. Parce qu'en fait, il faut bien voir que les savants du XXe siècle ont découvert exactement le contraire de ce à quoi ils attendaient. Ils s'attendaient tous. Si on se place il y a 100 ans, c'est pas long dans l'histoire des idées 100 ans, il y a 100 ans, en 1920, tout le monde croyait que l'univers était éternel, qu'il était immobile et qu'il était géométriquement infini. Et à leur stupéfaction, ils ont découvert progressivement que ces trois choses étaient fausses. C'est-à-dire que l'univers n'est pas éternel, il n'est pas immobile, il est en expansion, et il n'est pas infini, on en est à peu près sûr aujourd'hui. Einstein, quand il fait ses équations, il aboutit à des équations qui font que l'univers n'est pas stable. Et il se dilate. Et il se dit, c'est impossible, parce que pour Einstein, l'univers est absolument éternel, immobile. Et donc, il va modifier lui-même d'autorité ses équations pour que ses équations marchent avec son présupposé. Et c'est un jeune savant russe, qui s'appelle Friedman, qui est très jeune, qui va écrire à Einstein en lui disant « Maître, vous vous trompez complètement ». Bon, ils vont se disputer un peu, mais Einstein finira par reconnaître qu'en fait, il a fait la plus grande erreur de sa vie en mettant cette constante. Il est très étonné. Donc, les savants ont découvert des choses qui les ont beaucoup étonnés, et donc, il faut les écouter, et les prix Nobel sont spécialement intéressants. Par exemple, si je prends juste un de ces savants-là, très récemment, en 1991, Alan Sandage, qui est le lauréat du prix prestigieux Crawford, il dit « Je trouve tout à fait improbable qu'un tel ordre soit issu du chaos. Il doit exister un principe d'organisation. Pour moi, Dieu est un mystère, mais il est l'explication du miracle de l'existence. Mmh. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ?» Donc vous voyez, ce sont des savants incroyants.
Luc
qui
Ferry
finalement...
tombe de sa chaise là.
Oui, il boue forcément. Bon,
mais non, c'est pas ça.
Mais voilà, c'est ça. Donc les savants, eux, commencent à se dire qu'il y a des problèmes de l'existence de Dieu.
Ne dis pas les savants. Je peux te faire venir demain matin 10 savants, y compris des prix Nobel, dans le studio, qui te diront exactement le contraire. Donc il ne faut pas dire les savants. Des savants, mais pas les savants.
Quand ce savant-là, en l'occurrence, je tiens son livre, qui s'appelle Monde d'ailleurs, qui est publié chez Flammarion, Trinh Xuan Tuan, j'espère que je prononce bien son nom, quand il nous dit que dans les 30 prochaines années, on va avoir des révélations fracassantes, il s'agit de quoi exactement?
Eh bien, écoutez, je pense que au rythme où ça va, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que là, on a parlé du début et de la fin de l'univers, qui est un vrai problème métaphysique, bien entendu. Tout le monde comprend que le début et la fin de l'univers est un problème métaphysique. On comprend très bien que les réglages fin de l'univers, c'est un problème métaphysique. Mais il y a un troisième problème métaphysique aussi grave dans la biologie, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne croit qu'on peut arriver par hasard à passer de l'inerte, c'est-à-dire des molécules les plus complexes, à une cellule vivante. Plus personne. D'ailleurs, on a arrêté. Toutes les recherches ont été arrêtées.
Une nouvelle pause.
Il y a des milliers de gens qui le croient.
Et on revient.
Et notamment des biologistes.
Cette fois-ci, c'est Luc Ferry qui répondra.
Je t'amène Laurent Alexandre.
Mais pas du tout.
C'est à moi maintenant.
Je
t'amène Étienne Klein et Laurent Alexandre qui te disent après.
Tout de suite.
La soupe primitive.
Europe Soir, 18h, 20h.
Pierre de Villeneuve.
Et un livre déjà tiré à 50 000 exemplaires. Dieu, la science, l'épreuve. Il était numéro 1 en précommande sur Amazon. Il est numéro 3 aujourd'hui. Michel Yves Bolloré, Olivier Bonassi et Luc Ferry qui voulaient répondre justement sur le vivant.
C'est toujours le même problème. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à expliquer quelque chose, c'est-à-dire on n'arrive pas à expliquer comment la soupe primitive a produit du vivant, et en effet, là-dessus, Michel Yves a raison, on n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est pas parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y a un gros point d'interrogation, que c'est Dieu ou que c'est la matière. Il faut garder le mystère de l'être. Il faut s'abstenir de vouloir à tout prix trouver une cause là où on n'en a pas, en vérité. Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que c'est forcément Dieu qui est derrière. Et je voudrais évoquer un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais qui me paraît extrêmement important, parce qu'on parle de réglages très fins, des constantes, etc. Bon. Et en effet, je connais cette argumentation, elle est très forte, mais néanmoins, il y a évidemment, si on prend les choses d'un peu plus large, il y a quelque chose qui va complètement dans l'autre sens, c'est-à-dire que le monde n'est pas une horloge merveilleusement bien faite avec un horloger magnifique derrière, mais c'est le problème du mal. Le problème des tremblements de terre, le problème du tremblement de terre de Lisbonne, le débat entre Voltaire et Rousseau, le problème du mal, le livre de Diderot, la lettre sur les aveugles, ce mal qui frappe les innocents montre que le monde est très très mal fait en vérité, il est abominablement mal fait. Vous avez un cancer qui vous tombe dessus, même si vous êtes un type bien, c'est pas le mal tombe sur les bons comme sur les méchants. Et donc ça a donné lieu depuis le XVIIe siècle à un débat qui est extraordinairement important et intéressant et qu'il faut remettre ici, parce que on parle toujours de réglages très fins, moi je veux bien, mais regardons
pas
encore une fois.
Il n'est
pas fin du tout, c'est une catastrophe le monde. Et donc les tsunamis, les cancers, la boîte de Pandore dans la mythologie grecque. Et l'idée qui apparaît au XVIIe siècle et qui suscite un débat théologique qu'il faut remettre au goût du jour à partir de ce que Michel Yves nous apprend de la science contemporaine, soit si Dieu laisse les innocents anéantis, c'est le problème des aveugles nés, hein, les bébés, ils n'ont pas eu le temps de... Voilà, la lettre de Diderot, ils n'ont pas eu le temps de commettre des fautes, et pourtant ils sont, en quelque sorte, entre guillemets, punis. Donc soit Dieu est tout-puissant, comme le dit la théologie chrétienne, mais dans ce cas, c'est que c'est un Dieu méchant, soit il est très bon, mais c'est qu'il n'est pas puissant, puisqu'il laisse faire des choses qui sont abominables. Et donc, quand on me dit que le monde est merveilleusement réglé, et que l'horloge est si belle qu'il faut un horloger... Attendez, franchement, pensez aux tsunamis, pensez aux tempêtes, pensez aux typhons, pensez aux cancers, pensez aux maladies, pensez à la boîte de Pandore, quoi. La mythologie grecque est beaucoup plus profonde que la théologie.
Il ne serait pas si fin.
Alors, il n'est pas fin du tout. Hein.
Michel-Yves Bolloré.
Il est certain que Luc soulève un problème qui est évident, que tout le monde, sur lequel tout le monde est d'accord. Le problème du mal de le monde, le problème de l'imperfection du monde, le problème des tremblements de terre, etc. sont des problèmes tout à fait vrais, mais il se trouve que c'est un autre sujet. En tout cas, ce n'est pas le sujet de notre livre à nous. Donc, moi, je ne vais pas en parler parce que c'est un sujet qui est complètement différent. Donc, je vais revenir uniquement à des questions scientifiques. Je pense qu'il y a des auditeurs qui sont intéressés de se dire qu'est-ce que la science aujourd'hui dit de Dieu. Bon, il y a des questions morales, il y a des questions religieuses, il y a des questions diverses. Je les laisse philosophiques, mais je les laisse ici. Donc, pour ce que la science dit de Dieu, on a parlé tout à l'heure du début et de la fin. On a parlé également du réglage fin de l'univers. Mais il y a un troisième problème scientifique que tous les gens, tous les savants ont une grande conscience, c'est qu'on a cru longtemps qu'on allait pouvoir passer de l'inerte au vivant, c'est-à-dire les molécules les plus longues, on prend ce qu'on peut, les molécules les plus longues, les plus complexes qu'on puisse trouver dans la nature, et on les compare à l'organisme vivant le plus petit qui existe dans la nature, c'est-à-dire une cellule vivante, une bactérie, disons, c'est ce qu'il y a de plus petit, et comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre. Alors Darwin avait dit, effectivement, vers les années 1850 ou quelque chose comme ça, je crois, il avait dit, ça doit être simple, c'est dans une soupe primitive, on la chauffe, on met du méthane, on met des éclairs de tonnerre, on voit les images, etc., etc., on va y arriver. Et alors, c'est tellement, si vous voulez, c'est tellement ce que les gens ont cru, c'est qu'il y a eu des programmes nationaux qui ont été, avec des sommes très, très importantes qui ont été investies. Les premières expériences, c'est Stanley Miller en 1950, voilà, c'est aux États-Unis, bien sûr. Et puis ensuite, il y a eu à Miami, il y a eu Sidney Fox. Puis dans les années 60, il y a eu le docteur Euro au Texas, puis Melvin Calvin. Enfin, il y a eu toute une série de savants avec des programmes avec beaucoup d'argent où on a essayé de faire ça. C'est-à-dire mettre des éclairs, du méthane, du soufre, chauffer, secouer, etc. Et voir s'il en sortirait une cellule vivante. Et puis, toutes ces expériences, elles ont été arrêtées. Elles ont été arrêtées parce qu'on a découvert ce qu'était une cellule vivante. Et c'est incroyablement complexe, une cellule vivante, s'il y a des ordinateurs dedans. L'ADN est un ordinateur, l'ARN est un ordinateur, le ribosome qui traduit les deux langages l'un dans l'autre est un ordinateur. Plus personne...
Et là, c'est pareil, on calme sur les explications.
Plus personne ne sait comment la vie est sortie et comment la vie est sortie de la matière. Alors, Luc dit on n'a pas besoin de savoir. Luc dit qu'on n'a pas besoin de savoir. Et voilà, il y a des gens qui...
Mais pas du tout, je dis absolument pas ça. Dis, si vous voulez que ce soit Dieu, passez par la foi. Prétendez pas avoir des preuves. D'ailleurs, si on pouvait prouver l'existence de Dieu, ça serait... vous voulez dire que c'est Dieu, vous dites, le mystère est tellement grand, il est tellement immense, et d'ailleurs les scientifiques ont arrêté d'essayer de trouver de la soupe primitive pour fabriquer une cellule vivante, ce qui est vrai. Mais dans ce cas-là, il faut bien trouver un créateur, et donc, comme j'ai la foi... Eh bien, je dis que c'est Dieu.
Comme la foi. On n'a pas besoin. On doit choisir entre les deux thèses. Je pense que le lecteur, l'auditeur...
Non, la troisième, c'est le point d'interrogation. C'est la foi.
L'auditeur a la foi entre deux thèses.
Non. Expliquez-moi.
La matière, Dieu, le point d'interrogation et la foi. Et moi, je dis simplement, je comprends très bien que les gens soient croyants quand ils entendent Michel-Yves, mais je dis simplement, acceptez honnêtement de dire que vous sautez le mur qui sépare religion et science avec la foi. Et c'est ça qui me gêne. C'est, encore une fois, si Michel-Yves avait raison, les religions seraient mortes.
Mais si on s'attache justement à ce point d'interrogation, on se dit, finalement, on n'arrive pas à expliquer, tant pis, c'est comme ça, c'est pas forcément...
Non, on expliquera un jour, c'est tout.
Pourquoi est-ce qu'on a, fait taire tous ces scientifiques qui sont en page 93 de votre livre.
Alors ça, c'est une histoire merveilleuse. C'est une histoire extraordinaire.
C'est le roman noir.
Roman noir. Effectivement, c'est une histoire qui est très originale et qui n'a jamais été écrite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres sur Dieu et la science. On peut en trouver. Vous citez Trine Van Swann, il y en a eu beaucoup. Jean Stone. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus.
Et Bogdanov, quand même.
dans notre livre, nous avons un chapitre qui est complètement original, c'est la persécution des savants expansionnistes. Alors les savants expansionnistes, c'est ceux qui ont cru à l'expansion de l'univers, notamment dans les années 30.
Pourquoi est-ce qu'on les a fait taire ?
Parce que l'expansion de l'univers suppose un début et une fin. Et à l'époque, aussi bien Hitler que Staline avaient très bien compris que le début et la fin de l'univers, c'était égal à Dieu. Et donc, on a tué un nombre très élevé.
Et le seul Dieu, c'était eux, en fait, c'est ça ?
Et eux, ils n'étaient pas dans leur dialectique, il n'était pas question que Dieu existe. Et donc, effectivement, nous avons un chapitre très long, de 30 ou 40 pages, et dans lequel on donne le nom et les photos de tous les savants qui ont été fusillés, mis dans des camps de concentration, déportés dans des goulags, assassinés de diverses façons, simplement parce que c'était des pauvres mathématiciens ou des physiciens qui avaient dit l'expansion, l'univers est en expansion. Voilà. Et donc, Friedman, dont nous parlions tout à l'heure, a probablement été assassiné par les Soviétiques. À l'époque, on lui a saboté sa montgolfière.
Luc Ferry.
Bah, moi, je pourrais surtout écrire, enfin pas moi, ça a déjà été fait, mais l'histoire des savants qui ont été assassinés parce qu'ils disaient la vérité et qui ont été assassinés par l'Église au nom de la religion. Donc, à commencer par Giordano Bruno, le procès de Galilée. Et encore aujourd'hui, les créationnistes américains font des procès aux professeurs qui enseignent dans les universités les théories de l'évolution de Darwin. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il y a eu des persécutions, il faut quand même être honnête. Bon, la religion a passé c'est quand même des siècles et des siècles à persécuter les savants qui disaient la vérité.
Luc
donc c'est
Ferry,
plutôt dans ce sens-là
Luc
que les choses
Ferry
ont été terrifiantes.
Il y a 300 ou 400 ans.
Non, non, les créationnistes américains, c'est aujourd'hui. Les procès aux professeurs qui enseignent la théorie de l'évolution aux États-Unis, c'est aujourd'hui. Cette année même. Je peux t'en donner des exemples.
Les gens qui ont été mis dans des camps de concentration et qui ont été fusillés, il y a 25 noms et 25 photos là, dans ce chapitre-là, ce sont des gens qui ont été fusillés par Staline ou par Hitler. Parce qu'ils croyaient à l'expansion de l'univers, ce qui signifiait un début et une fin. Et un début et une fin, ça signifie nécessairement une cause première,
donc
un Dieu
créateur. Pour d'autres raisons.
Je pense
l'auditeur parce qu'il était juif. Bon, il faut aussi rappeler quand même la période dans laquelle on se situe. Ouais. Einstein a eu des insultes quand il a émis la théorie de la relativité, mais c'était essentiellement par antisémitisme. C'était pas parce qu'il annonçait des choses qui allaient dans le sens de la religion.
Dans lequel
encore
Einstein,
une fois,
c'est vrai.
Bien sûr que c'est... Mais encore une fois, pour moi, c'est pas le sujet. Est-ce qu'on est croyant? Est-ce qu'on n'est pas croyant? Je comprends parfaitement que les gens soient croyants. Ce que je voudrais, c'est qu'ils aient l'honnêteté de dire qu'ils franchissent le mur par la foi et pas par la preuve. Encore une fois, si on pouvait prouver l'existence de Dieu, d'abord ça saurait, ensuite les religions seraient mortes.
Laissons choisir les auditeurs.
Bien sûr,
ils nous ont écoutés attentivement.
On
va leur passer les bandes pendant les publicités, là où vous vous engueuliez. Il y avait quand même quelques informations que les auditeurs ont loupées. Michel
Yves
Bolloré, avec Olivier Bonacidieu, La science, l'épreuve. Et Luc Ferry, vous publiez Réflexions sur l'école aux éditions Priva. J'ai noté notamment que votre préfacière, Jeannette Bougrabe, dit « La France est ce pays étrange où en 2020, d'après le ministère de l'Éducation nationale, plus de 80% d'une classe d'âge a le bac, alors que 10% de la même classe d'âge est illettré. » Et c'est là le paradoxe.
Et c'est même plutôt 20%.
Et c'est même plutôt 20%. Merci
à vous
deux.
Merci
beaucoup.
Merci Michel Yves, merci à vous.